Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, ou presque. Dans le monde entier, les droits de l'homme restent une œuvre soumise à conditions. En France aussi, liberté, égalité et fraternité. C'est comme les licornes, on aimerait beaucoup vous dire que c'est une réalité, mais on préfère vous dire la vérité, c'est pas gagné. Pour les licornes, on ne peut pas grand-chose. Pour la défense des droits et des libertés, en revanche, nous, on essaie. Nous, c'est la LDH, pour Ligue des droits de l'homme. La Ligue, c'est une association de citoyens généralistes, républicaines, libres, laïques et indépendants de tout parti politique. Elle a été créée à l'origine pour s'opposer au procès truqué du capitaine Dreyfus, dont la confession juive faisait un coupable idéal. Depuis, les injustices et discriminations auraient pu disparaître d'un coup de baguette magique, mais la baguette, on la cherche encore. Alors on travaille. Depuis l'affaire Dreyfus, la LDH a étendu son combat. En faveur de la justice sociale, pour le droit de grève et la liberté syndicale d'abord. Puis, dans les années 30, en s'opposant au mouvement fasciste et en s'engageant pour l'accueil des exilés. Libre et égaux en droit, ou presque. Dans le monde entier, les droits de l'homme restent une œuvre soumise à conditions. En France aussi, liberté, égalité et fraternité. C'est comme les licornes, on aimerait beaucoup vous dire que c'est une réalité, mais on préfère vous dire la vérité, c'est pas gagné. Pour les licornes, on ne peut pas grand-chose. Pour la défense des droits et des libertés, en revanche, nous, on essaie. Nous, c'est la LDH, pour Ligue des droits de l'homme. La Ligue, c'est une association de citoyens généralistes, républicaines, libres, laïques et indépendants de tout parti politique. Elle a été créée à l'origine pour s'opposer au procès truqué du capitaine Dreyfus, dont la confession juive faisait un coupable idéal. Depuis, les injustices et discriminations auraient pu disparaître d'un coup de baguette magique, mais la baguette, on la cherche encore. Alors on travaille. Depuis l'affaire Dreyfus, la LDH a étendu son combat. En faveur de la justice sociale, pour le droit de grève et la liberté syndicale d'abord. Puis, dans les années 30, en s'opposant au mouvement fasciste et en s'engageant pour l'accueil des exilés fuyant les dictatures. Plus tard, contre les répressions et la torture pendant la décolonisation en Algérie et à Madagascar. Contre la peine de mort et autres idées géniales sorties du cerveau des humains. Résultat, en 1998, la France fête la Coupe du Monde et la LDH, c'est 100 ans. Et à 100 ans, on aurait bien eu le droit de raccrocher. Pour ce moment-là, c'est pas fini. Loin de là. D'autant qu'on ne vous apprend rien, ces derniers temps, la France s'en est pris plein la figure. Et si vous avez déjà marché pieds nus sur une punaise, vous le savez, la douleur nous guide rarement vers de bonnes décisions. C'est là que notre vigilance redouble. Parce que pour nous, réagir à l'horreur des attentats par des dérives sécuritaires, autoritaires, législatives et par la peur de l'autre, ce n'est pas exactement ce qu'on appelle une bonne idée. C'est pour cela que nous nous sommes opposés aux propositions honteuses sur la déchéance de nationalité. C'est pour cela que nous mettons en garde contre le risque liberticide de la vidéosurveillance, du fichage qui s'étend, de la loi sur le renseignement et des multiples prolongations de l'état d'urgence. C'est pour cela aussi que nous luttons contre la stigmatisation des migrants et la xénophobie ambiante. Mais concrètement, on fait quoi? Concrètement, on intervient au milieu scolaire et dans les quartiers sur la citoyenneté, les discriminations et plus encore après les attentats récents sur le vivre ensemble et la laïcité. On organise plus de 700 événements par an, conférences, ciné-débats et formations visant à déconstruire les idées d'extrême droite, attirer l'attention sur la protection des données personnelles, promouvoir l'égalité de genre, etc. Nous allons devant les tribunaux aux côtés des victimes de discrimination. Assurons des permanences d'aide juridique pour tous. Et portons plainte lorsque des propos racistes sont déversés sur le net ou en chair et en os. Ou lorsque les élus affichent leur intolérance. Et nous interpellons les pouvoirs publics pour garantir des droits. Le droit d'asile, par exemple. Mais aussi le droit au logement. Le droit à la scolarisation. Le droit à l'avortement. Ou bien encore pour veiller à ne pas se faire rogner nos droits fondamentaux comme la liberté d'expression. Pour résumer, on ne s'ennuie pas. Mais on a besoin d'aide. Aujourd'hui, nous sommes 10 000 en France et dans les territoires d'outre-mer, répartis dans 315 sections, qui s'organisent de manière pleinement démocratique. Regardons la réalité en face. Même si nos adhérents sont bénévoles, menons tous ces combats coûtent de l'argent. Un tiers de notre fonctionnement est assuré par les subventions publiques. Les deux tiers restants proviennent des cotisations des adhérents, des ventes, dons et legs nécessaires. Mais surtout, ils assurent ce que nous entendons bien garder, notre indépendance. Face à l'ampleur de la tâche, on n'est pas contre un petit coup de main. Voilà ce que vous pouvez faire. Adhérer et rejoindre les militantes et militants de la LDH pour agir de manière concrète et collective. Faire un don ou un leg à la LDH. Vous abonner à notre revue. Souscrire à un compte épargne solidaire. Et aussi partager cette vidéo et nous donner votre avis sur les licornes. Tout ça compte. Parce qu'un jour, on aimerait vraiment dire avec vous, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et que ça ne soit pas une offre soumise à condition.
Voilà. Voilà, vous m'entendez là, c'est aussi super, bien. Bon, je m'excuse, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour l'horreur là pendant 3 ou 4 minutes, mais bon, vous avez été sage, c'est parfait. Donc, c'est fini. Bon, je vais vous en demander encore un petit peu parce que ce que je vous propose, c'est une partie qui est une partie d'intervention que je vais essayer de faire le moins académique possible. Mais voilà, parce que c'est un certain nombre d'informations qu'on m'a demandé de vous transmettre. Hein, et puis une partie qui est peut-être une partie beaucoup plus interactive, hein, de débat. Voilà. Donc, vous l'avez compris, donc je suis membre de la Ligue des droits de l'homme. Je suis même le secrétaire général. Hein. Alors, la Ligue des droits de l'homme, vous avez vu, vieille association, 120 ans, hein, vieille dame un peu indigne. Qui est née au moment de l'affaire Dreyfus, hein, c'est-à-dire au moment de ce qu'on appelle l'affrontement entre les deux Frances. Hein, en 1898, je vais faire un peu d'histoire pour resituer un petit peu hein, la question qui est la question des droits de l'homme. En 1898, la France se divise en deux, pour dire comme ça. La France, il y a une France qui est la France catholique, monarchique, hein, de l'ordre, de l'armée. Hein. Plus tard, on dira le sabre et le goupillon, hein, qui est C'est l'époque où la croix fait comme, a comme publicité, comme réclame. Hein. À l'époque, on disait, hein, lisez la croix, le journal le plus antisémite de France. C'est vrai, hein, c'est voilà. Et d'un autre côté, une autre France qui est la France républicaine, hein, celle de la Troisième République, et qui, avant l'affaire Dreyfus, a accumulé un certain nombre de lois qui sont des lois que nous connaissons aujourd'hui, d'ailleurs sur lesquelles nous fonctionnons, et qui sont fondées sur les droits de l'homme. Hein, c'est la loi de 1881, hein, ce qu'on appelle les lois scolaires et les lois laïques, les lois Jules Ferry, etc., etc. C'est les lois de la liberté syndicale, c'est la liberté de la presse, la loi sur la presse. Hein, c'est la loi de 1901 sur la création des associations, c'est la loi de 1905 sur la laïcité, vous voyez, c'est cette série de... Voilà. Et la Ligue des droits de l'homme s'inscrit dans... dans ce cadre-là et dans ce conflit, hein, Dreyfus, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez, rappelez-vous, votre scolarité, c'était l'époque où il y avait un dessin de Carandache, on voyait un dessin avec une famille qui était en train de manger paisiblement, et puis un deuxième dessin, vous voyez tout dévasté dans la salle. On disait, ils n'ont pas encore parlé de l'affaire Dreyfus, ils ont parlé de l'affaire Dreyfus. C'était le deuxième dessin, voilà. Alors, symboliquement, c'est que ça marquait quand même, et il n'y avait pas besoin de beaucoup plus de détails pour comprendre ce dont il était question, tellement ça marquait le pays. Hein, voilà, et ça culminait en gros en 1905, on va dire, au moment de ce qu'on appelle la loi sur la laïcité, on va le dire comme ça. Voilà. Ça, c'est encore de... C'est nous, notre association, celle dont je suis secrétaire général, hein, c'est notre filiation qui est la filiation culturelle, qui est une filiation qui est celle des droits de l'homme et du citoyen de la déclaration de 1789. Qui est, je le rappelle, peut-être parce que des fois, on le rappelle tous les jours avec les lycéens, les collégiens avec qui on travaille, le contrat de départ sur lequel est fondée toutes nos relations sociales. Puisque, en amont de tous les textes fondateurs qui régissent, qui structurent, qui sont les sources de nos lois, c'est la déclaration de 1789, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tout le monde la connaît un petit peu, moi, l'article 1, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, enfin, etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle les droits civils et politiques. Voilà. Hein, et ce qu'on appelle autrement pour les juristes les droits libertés. Nous sommes, en France d'ailleurs, héritier de cette philosophie-là, qui est la philosophie des Lumières. Les anglo-saxons ne sont pas héritiers de la même tradition. D'un côté, on va dire, pour le dire caricaturalement, les droits de l'homme, celle de la déclaration de 1789, et puis il y a la déclaration d'indépendance des États-Unis, etc., etc., ce qu'on va appeler les droits humains, qui sont une référence religieuse. Hein, les droits anglo-saxons, le modèle des droits anglo-saxons, c'est ce qu'on appelle des droits naturels, qui sont des droits qui sont conférés par une transcendance aux individus et qu'il s'agit de respecter. Voilà, c'est ce qui fonde notre... Ils sont ce qu'on appelle des droits naturalistes, alors que nous avons une approche qui est une approche de droit contractualiste. C'est-à-dire que nous avons des droits entre nous parce que nous passons des contrats entre nous. Nous passons un contrat entre nous, alors nous avons un contrat qui est de se respecter mutuellement un certain nombre de droits que nous négocions et sur lesquels, éventuellement, quand nous ne sommes pas d'accord, nous parlons. C'est le Parlement qui fait les lois de cette manière-là. Et ça part d'un principe, je vais faire encore un petit peu d'histoire, c'est juste pour déconstruire aussi des représentations, des idées qu'on se fait, dont on entend parler sur les droits. Et souvent on dit, ouais, les droits, ça va, mais les devoirs, quand même. Et il y a aussi des devoirs, il n'y a pas que des droits. Voilà, nous partons d'un principe, nous sommes fondés sur un principe, et je dis nous, moi dans mon association, fortement bien sûr, mais parce que c'est la règle du jeu, et je la rappelle, la liberté est le principe général, et l'interdiction est l'exception. Nous avons des droits. Ce que nous avons en premier, c'est des droits. En 1789, les anciens, pour le dire comme ça, sont des gens qui sortaient d'une société dans laquelle c'était une société de devoirs. On avait des devoirs, et parce qu'on respectait ces devoirs, on pouvait avoir accès à un certain nombre de droits. C'était des sociétés dans lesquelles les devoirs, d'ailleurs, figeaient les gens dans leur place, qui était leur place sociale. Et c'était des sociétés, souvent, qui étaient des sociétés d'origine religieuse. Hein, les religions fabriquent souvent du devoir, le décalogue. C'est pas du droit, le décalogue. Tu ne tueras pas, ce sont des systèmes qui sont, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ce sont des systèmes qui sont des systèmes d'interdit, de devoir. Voilà. Et en 1789, l'idée, ça a été de dire, on renverse les choses, et on dit, voilà, nous avons des droits. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Voilà, hein, il y a toute une série de droits comme ça. Hein, et en fait, nous n'avons quasiment qu'un seul devoir redoutable, c'est celui de respecter les droits des autres. Hein, quand vous lisez la Déclaration des droits de l'homme de 1789, les quelques passages dans lesquels il y a des choses qui sont des ordres de l'ordre du devoir, chaque fois, le sens de ce devoir-là, il est mis en référence avec, effectivement, les droits des autres. Pour le dire autrement, notre principe à nous, c'est de dire, il n'y a pas à s'opposer aux droits de quelqu'un s'il ne m'en enlève pas. Hein, voilà, ça c'est notre... Notre manne, c'est sur quoi nous sommes fondés. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est ça. Voilà, hein. Et c'est un système qui est un système comme ça. C'est un texte qui est un texte politique, pour le coup. La déclaration des droits de l'homme, ça a toujours été très compliqué dans notre tradition à nous, de lui trouver une source qui soit une source transcendante. Alors, il y a l'être suprême, il y a des choses comme ça, mais... La République, pour dire comme ça, n'a jamais été très bonne dans ce genre de choses-là, parce qu'effectivement, elle n'est pas fondée, malgré ce que peuvent dire des gens qui se réclament comme très républicains, sur de la transcendance, sur quelque chose qui nous tombe dessus, comme ça, mais elle est fondée sur le fait, un système d'égalité, et sur le fait qu'entre nous, nous fabriquons nous-mêmes nos propres lois, sans aller forcément chercher quelque chose qui serait... qui, d'une certaine manière, nous légitimerait pour les faire. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité, bien entendu. Hein. C'est jamais aussi simple. D'abord, les hommes naissent et demeurent libres de voir. Et puis, comme disait l'autre, après, ils grandissent, ça devient beaucoup plus compliqué, les principes d'égalité. Mais les fondements de notre société, ils sont... Quand je dis notre société, c'est parce qu'effectivement, en France, on connaissait la hiérarchie des textes, déclaration des droits de l'homme, constitution... Et ensuite, on déboule les lois jusqu'au réglementaire, aux circulaires ou des trucs comme ça. Mais quand chez nous, dans notre pays, on peut considérer qu'une loi ne nous paraît pas conforme aux principes qui sont les principes fondamentaux qui nous régissent, on va faire appel au Conseil constitutionnel avec toute une série de particularités qui vont faire. On ne va pas au Conseil constitutionnel pour lui demander, comme ça, sonnant en disant voilà, moi je ne suis pas d'accord, est-ce qu'il est écrit au Parlement. Mais voilà. Et qu'il est hors de question et impensable, a priori, qu'une loi puisse être édictée dans notre pays si elle est en contradiction avec ces principes qui sont les principes des droits de l'homme. Voilà. C'était, ça fait un peu court ex cathedra, mais c'est peut-être pour rappeler ce dans quoi on est. Alors ce sont des droits civils et politiques. Ceux-là, ils nous ont, comment dire, Ils ont baigné notre histoire jusqu'à... Alors, déclaration de 1789, qui se veut universelle. C'est-à-dire, la France, pays des droits de l'homme, il vaudrait mieux dire la France, pays de la déclaration des droits de l'homme, parce que ce serait historiquement beaucoup plus juste. C'est des choses qui se veulent universelles, c'est-à-dire que, à la fois dans une contradiction, dans un paradoxe terrible, et qui est qu'à la fois ça se veut universel, en même temps on ne l'applique pas à tout le monde. Quand on est noir, on est un peu moins égaux que les autres. Quand on est une femme, on est un peu moins politiquement égal que les autres. Et cette déclaration va connaître des allers-retours dans notre histoire. C'est avec des mouvements politiques qui vont à l'encontre de ce... Le code noir, le code de l'indigénat, tout ça, c'est des choses qui vont à l'encontre de cette chose-là. Voilà. On est dans cette première, d'abord, référence aux droits, qui sont les droits civils et politiques, qui sont les droits libertés. Mais nous sommes aussi, à part, c'est la deuxième génération des droits, c'est celle de 1948, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle-là. Qui va aller au-delà des droits civils et politiques, les droits à liberté, et qui va aborder une deuxième catégorie de droits qu'on appelle les droits créances. Les premiers, ils ne coûtent rien. Le premier coûte rien, hein, en tant que tel, voilà. Les seconds, ce qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels, hein, ce qu'on voit apparaître dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle de 1948, hein, qui est à la sortie de la guerre, hein, à la sortie de la guerre, on mesure bien quand même, hein, que l'économie a quelque chose à voir avec la garantie qu'on peut avoir de respecter les droits civils et politiques. Pour le dire autrement, il n'y a pas de droits civils et politiques garantis s'il n'y a pas des droits économiques et sociaux et culturels garantis. Trivialement, c'est très difficile pour une catégorie de personnes qui vit très très mal socialement dans un pays d'exercer son droit de vote, par exemple. Si quelqu'un ne se sent pas socialement et n'est pas reconnu économiquement comme citoyen et partie prenante de la société, on ne peut pas lui demander un rapport de citoyenneté qu'il peut y avoir avec les autres. Et ça, c'est les droits économiques, sociaux et culturels. Alors, les premiers, c'est la propriété, c'est la liberté, les choses comme ça. Les droits économiques, sociaux et culturels, ceux de la deuxième génération, c'est le droit au travail, c'est le droit au logement. C'est le droit à la sécurité. Alors chaque fois, quand je parle du droit à la sécurité, je ne peux pas m'empêcher de dire. Vous avez souvent entendu dire la sécurité est le premier des droits. Alors, quand on regarde bien dans les textes fondateurs, le seul droit à la sécurité qui existe dans une déclaration, c'est celle de 48, c'est le droit à la sécurité sociale. Voilà. Vous n'avez jamais, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, vous avez un droit fondamental qu'on appelle la sûreté, et qui, d'une certaine manière, est l'inverse de ce qu'on veut nous fourrer comme droit à la sécurité. La sûreté, c'est le fait de ne pas être soumis à l'arbitraire de l'État. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas emprisonner quelqu'un sur une lettre de cachet. J'ai la sûreté de ma personne. Un magistrat, un souverain ne peut pas, de sa propre initiative, m'empêcher et porter atteinte à mes propres libertés. Voilà. Et le seul droit à la sécurité qui existe, c'est celui de 48, qui est effectivement le droit à la sécurité sociale. Je ne suis pas sûr que quand Nicolas Sarkozy revendiquait très fort le droit à la sécurité, c'était de celui-là dont il parlait. Voilà. Parce que pour ce qui est de la sécurité sociale, il avait un autre type de comportement, pour le dire comme ça. Voilà. Donc on est juste donné. Alors. Ces textes-là, au passage, sont des textes qui, internationaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est quelque chose qui a été voté en 1948. Et ça a été très, très compliqué, puisqu'on rentre dans la guerre froide. C'est bien la pression de toute une partie des sociétés qui met en avant la question qui est la question des droits économiques, sociaux et culturels. Les marxistes se retrouvent, pour le dire trivialement, beaucoup plus dans ces droits-là que les droits de la première génération, les droits créances plutôt que les droits libertés. Et on n'a jamais pu d'ailleurs faire. On pensait faire des textes qui étaient des textes qui garantissaient l'application de ces droits-là. Et c'est assez indicateur à la sortie de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Puisque c'était l'époque encore où c'était les nations qui garantissaient l'équilibre des applications des textes, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, on a eu des nations qui ont signé les choses concernant les droits, ce qu'on appelle civils et politiques. On va dire de manière très caricaturale, tous les pays occidentaux ont signé sans problème les droits civils et politiques. L'URSS, la Chine n'a pas signé, par exemple, les chartes d'application. Et à l'inverse, les États-Unis, par exemple, n'ont jamais signé les chartes d'application des droits économiques, sociaux et culturels, par exemple. Voilà, on voit bien quand même que quand on touche à la question qui est la question des droits d'homme, on touche aussi à du politique. Autrement dit, la déclaration les droits de l'homme, c'est quelque chose qui est éminemment politique. Et ce que nous disons, nous, dans l'association à laquelle je suis, nous revendiquons comme une association qui est une association politique. C'est-à-dire qu'on a un principe sur lequel on tient, encore une fois, c'est que les droits ne peuvent jamais ni se diviser, ni être imaginés les uns par les autres. Le discours qu'a pu tenir à un moment donné un président de la République chez nous qui s'appelle Chirac, à propos par exemple de la Tunisie, en disant, ils ne sont peut-être pas la liberté, mais ils mangent. En gros, c'était ça qu'il a pu dire. On a pu voir quelques années que le fait de manger n'était pas suffisant pour des peuples. Ce qu'ils réclamaient aussi, c'était autre chose, effectivement, que un dictateur qui leur garantit le fait de manger, ce qui est par ailleurs extrêmement important. Mais l'un ne va jamais sans l'autre. Voilà. Donc, voilà quelques éléments, de repère concernant, concernant la question qui est la question des droits de l'homme. Alors, quelques éléments aussi avant le débat. Moi, je suis appliqué, j'ai lu l'affiche et tout de la soirée. Hein. La question sur les droits de l'homme aujourd'hui, où est-ce qu'on en est à l'échelle internationale, à l'échelle de notre pays? On pourrait faire un petit passage par l'Europe, ce ne serait pas inintéressant aussi, pour parler du quotidien de ce que c'est qu'un militantisme dans une association de droits de l'homme. Alors, au niveau international, on a effectivement... Je vous conseille la lecture de ce très très beau livre qui est fait par la Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs. Je fais de la pub, mais tranquillement. Hein. Ça s'appelle « La classe des droits de l'homme », c'est intéressant. Ça fait un état des lieux de la situation un peu partout dans le monde. Il y a des choses qui, depuis la signature des textes, qui étaient des textes fondamentaux, qui ont avancé de manière extrêmement importante. Hein. J'ai envie de dire des choses qui sont des choses qui ne sont pas forcément dans le sens du moment morose qu'on est en train de vivre, que je partage complètement par rapport à la situation, à l'évolution de la situation et à la manière dont se représente l'avenir. Voilà, on n'est pas, c'est pas très... Dans notre pays, beaucoup dans notre pays et ailleurs, c'est pas dans l'optimisme que l'optimisme béat. Mais... les droits de l'homme sont des choses qui effectivement ont avancé. Qui ont avancé dans des pays, sachant qu'on est confronté, quand on regarde les choses au niveau international, on peut très bien, et c'est un débat qui nous traverse et sur lequel on réfléchit en permanence, se dire qu'après tout, les droits de l'homme sont des droits de l'homme, alors quand on dit l'homme, on parle bien de l'humanité, au sens de l'être humain, occidental. Après tout, ces droits de l'homme seraient peut-être un petit peu ethnocentrés, on va le dire comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, et ça c'est un discours qu'on entend pas mal, qui est de dire, après tout, il y a des pays qui ne sont pas tellement prêts pour la démocratie ou l'égalité, par exemple. Chez nous, c'est pas très démocratique, on n'a pas trop de libertés, qui soient des libertés politiques, mais... Notre culture à nous, notre manière de faire, nos traditions, notre histoire et tout, font effectivement que, après tout, on n'est peut-être pas mieux pour ça. Moi, je circule des fois dans les pays de l'Est, et par exemple, quand je parle avec des amis qui sont des amis russes, ils me disent, tu sais, nous, en Russie, on est habitués aux gens qui tiennent un petit peu les trucs, parce que dès qu'on a un peu de liberté, on fait les comptes quand même. On ne se tient pas très très bien, on n'est pas capable trop de faire société. Je peux vous le faire pour des tas de, entre guillemets, cultures ou références ethniques ou des trucs comme ça. Personnellement, mais ça sera un objet d'un débat, moi je ne suis pas sûr que le principe, l'article 1, les hommes naissent et demeurent libres aux égaux à droit, c'est un article qui soit un article à moduler en fonction de la culture des gens. Et même, je suis quand même intimement persuadé que, au bout d'un moment donné, l'égalité, la dignité, la sûreté sont des choses qui sont revendiquées par les personnes. Voilà. Et que quand elles ont à choisir, quand elles peuvent choisir, quand les choses se passent, elles sont ouvertes devant elles, c'est quand même ça qui prime. Après, la question, c'est quelle forme ça prend. Et c'est vrai que pendant quand même la question des droits de l'homme, on peut l'interroger sur la manière dont nous-mêmes occidentaux, nous en sommes... Bush avait l'impression d'amener la démocratie et les droits de l'homme dans le temps, dans les blindés qui allaient à l'Irak. Voilà, c'est une question qui est intéressante aujourd'hui, ces droits qui sont des droits universels, à quelles conditions, effectivement, on peut les mettre en œuvre Hein, avec des gens qui ne sont pas forcément avec nos propres repères ou des choses comme ça, tant à des moments donnés, les droits de l'homme, on a pu s'en servir comme étant des prétextes pour nous permettre de coloniser, de mettre un peuple réglé économiquement un certain nombre de pays, voire un certain nombre de continents. Hein, la Troisième République a quand même justifié la colonisation au nom des droits de l'homme qui seraient comme ça, des valeurs qui seraient à imposer, qu'on élèverait au-dessus de leurs conditions ou de leur culture, qui est leur culture traditionnelle. La Ligue des droits de l'homme, dans notre propre association, pourtant, avait des gens qui étaient plutôt éclairés. La critique du colonialisme n'a pas été extrêmement facile. Voilà, pourquoi ? Parce que quand même, on a des valeurs qui sont des valeurs universelles et des principes qui sont des principes généraux. Et on amène la lumière aux gens qui sont des gens qui ont encore les yeux un peu qui demanderaient d'être dessillés ou des choses comme ça. Voilà. On est quelquefois traversé par ce genre de choses-là. Voilà. Je dis ça parce que je trouve que les. Y compris, c'est très personnel, mais c'est pas comme moi, c'est la Ligue des droits de l'homme. Par exemple, on a une drôle de manière des fois, au nom de la Ligue des droits de l'homme et de la République, de faire découvrir. La liberté entre les hommes et les femmes avec des gens, à des gens qui sont des gens pour lesquels ça ne se passe pas exactement pareil comme pour nous. Voilà, c'est quelque chose qui demande en permanence une pratique qui est une pratique qui fasse qu'on n'en ait pas des effets pervers, alors qu'on peut faire ça avec les meilleures intentions du monde. Les droits de l'homme ont quand même eu des avancées qui étaient des avancées importantes dans le monde, c'est-à-dire qu'on a vu avancer des choses concernant les droits des enfants. On est généraliste comme association, la Ligue des droits de l'homme, autrement dit, on a une approche, encore une fois, qui est une approche comme ça, un peu tout azimut. Le combat contre la peine de mort, le droit de vivre sans se faire exécuter, c'est quelque chose qui, dans les 50 dernières années, puisque c'est à cette échelle-là qu'on peut mesurer aujourd'hui l'évolution qui est l'évolution de l'application de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des choses ont avancé de ce point de vue-là. On a de moins en moins de pays qui appliquent la peine de mort. On a, avec des adaptations, il y a des pays qui ont, pour lesquels la peine de mort n'existe même plus dans le barème, on va le dire comme ça, mais on a des pays qui sont des pays qui ont mis en place des moratoires, etc. Il y a un certain nombre de choses comme ça là qui il y a 50 ans quand même, on avançait en termes de respect des droits des hommes, des femmes, des enfants, des personnes en difficulté ou des choses comme ça. Et le dispositif qui sert ces choses-là, puisqu'il est articulé avec les Nations Unies, les droits de l'homme sont le texte de référence pour les Nations Unies, on fait avancer les choses de ce point de vue-là. Voilà. On pourrait se poser davantage de questions peut-être à des moments. Alors, je ne suis pas en train de lire que tout est que dans le meilleur des mondes, mais c'est des choses qui quand même sont au cri de la position qui a pu être prise, des pétitions de principe et des valeurs qu'on a pu s'imposer à l'échelle qui est l'échelle internationale. Voilà. Tout ça, bien entendu, traversé par des conflits, par des systèmes d'exploitation, par des guerres, par des évolutions de pays vers des choses qui sont attentatoires à ce genre de... Et ces dernières années, nous, on est affilié à un truc qui s'appelle une fédération qui s'appelle la Fédération internationale des droits de l'homme, qui font qu'on est en contact avec des ligues des droits de l'homme dans des pays qui sont essentiellement francophones. Ça aussi, c'est l'héritage de la dimension culturelle, du partage culturel sur le globe. Mais on perçoit à la fois ces avancées-là Et ce qu'on perçoit aussi de manière relativement inquiétante aujourd'hui, c'est la montée, c'est la montée d'un certain nombre de régimes et de pays qui sont en train petit à petit aussi de dériver de ce point de vue-là, des pays qui sont des pays importants, je veux dire, qui sont les États-Unis. Enfin, je vous fais grâce des de l'actualité qui est l'actualité internationale que vous connaissez aussi bien que moi. Mais aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis avec Trump est quand même extrêmement inquiétant par rapport à un certain nombre de principes et d'applications de droits de l'homme, puisqu'on est dans le chaos politique et dans la dérive, y compris au niveau des principes d'égalité ou des choses comme ça. Mais plus près de nous, l'Europe aujourd'hui, qui est censée aussi être, s'appuyer, puisque l'Europe, ce n'est théoriquement pas qu'un espace économique de concurrence libre et non faussée, mais c'est aussi un certain nombre de valeurs, des valeurs qui sont partagées. C'est pas que des valeurs, c'est du système juridique que vous pouvez interpeller la Cour européenne des droits de l'homme qui va, à certains moments donnés, la procédure est longue et tout, aller à l'encontre d'une juridiction nationale si le pays n'applique pas des lois qui sont des lois conformes aux droits de l'homme ou à toute une série de textes qui sont des textes européens. Mais voilà, même en Europe aujourd'hui, on peut... Et sur lequel on a, là aussi, pendant les 50 dernières années, on a avancé sur les droits fondamentaux. Là aussi, la peine de mort, l'égalité homme-femme, le droit au logement, ou des choses comme ça, des choses ont évolué positivement. On a l'impression... Les militants des droits de l'homme ont l'impression aujourd'hui d'être un peu impuissant par rapport à des montées de références individuelles et culturelles qui font qu'on n'est pas dans la négociation de valeurs et de solidarité. L'Europe aujourd'hui n'est plus une Europe qui est fondée sur la solidarité, elle est alors que ça fait partie a priori de ses valeurs fondatrices. Elle est un continent qui, de façon générale, se vit pour l'essentiel comme un espace qui est un espace économique. Il n'y a qu'à voir, pour nous, quelque chose qui est extrêmement indicateur à l'échelle de l'Europe et qui est un indicateur à l'échelle du globe, c'est la question aujourd'hui auquel nous sommes confrontés sur les migrations et le phénomène qui est le phénomène des réfugiés. Qui est un effet d'ailleurs de ce que je viens d'évoquer sur les dérèglements qui sont les dérèglements du monde et sur l'incapacité qu'on peut avoir ou la difficulté qu'on peut avoir partout dans le monde et aujourd'hui particulièrement en Europe d'appliquer un certain nombre de principes qui sont au-delà de principes qui sont des textes de droit international. Voilà. L'Europe aujourd'hui est en train de s'ériger comme une forteresse face à ce qu'elle vit comme étant une vague qui nous submergerait, qui est celle des gens qui quittent leur domicile parce qu'ils sont souvent confrontés à la guerre, ou à quelque chose qui est aussi légitime pour un départ, qui est effectivement la situation économique dans laquelle ils vivent, ce qui pose problème. Nos textes référés aux droits de l'homme sont des textes qui datent. Si on prend la question qui est la question des réfugiés, qui est lié aux accords de Genève. C'est des textes qui ont été organisés à partir d'une vision du réfugié politique qui quitte son pays parce qu'effectivement il ne va pas pouvoir bénéficier de ses droits fondamentaux et par ailleurs il va être mis en danger par des régimes qui sont des régimes politiques. Voilà. Aujourd'hui on peut se poser la question de... Quand on est réfugié, quand on arrive en Europe, quand on arrive en France, si on n'arrive pas à faire la preuve d'une histoire comme celle-là, on n'a pas le statut qui est le statut de réfugié. Voilà. Or, ce que nous vivons aujourd'hui, C'est le fait que des gens qui circulent dans le monde ne le font pas que pour des raisons qui sont des raisons politiques, mais qui sont pour des raisons qui sont des raisons liées à la guerre, voire à la situation qui est la situation économique. Et là, il y a certainement, par exemple, à devoir réfléchir sur à la fois un certain nombre de principes et de textes pour pouvoir les adapter aux réalités qui sont les réalités du moment. Mais ce qui est de sûr, c'est que, par exemple, en Europe et aussi en France, on... Les principes de solidarité, on a plus tendance à vouloir se protéger de quelque chose, d'ailleurs dont nous on pense que c'est illusoire d'imaginer qu'on peut se protéger, alors, à la fois parce qu'on les produit, ce ne sont souvent que les effets retours de d'actes qui sont les actes qui nous sont propres, mais parce que par ailleurs, la question qui est la question des migrations, c'est-à-dire la circulation des gens dans le monde, va continuer et va certainement s'accélérer. Et que y compris, ça va nous toucher certainement nous-mêmes dans notre propre pays, parce que après les réfugiés politiques, les réfugiés liés aux guerres, l'époque des réfugiés climatiques est en train d'arriver, et on n'est pas du tout sûr que nous ne soyons pas touchés par ce genre de choses-là. Avec une dimension liée aujourd'hui certainement à la peur que nous pouvons avoir individuellement et que nous partageons collectivement, qui fait que nous sommes tellement inquiets et nous ne sommes plus tellement portés par l'idée de progrès comme ça a pu être le cas. La déclaration des droits de l'homme de 1789 ou la déclaration universelle, c'est des déclarations qui s'appuient sur des sociétés optimistes. Qui pensent qu'on va aller vers mieux. Or, les sociétés qui pensent qu'on va aller vers moins bien sont en règle générale les sociétés qui ne fabriquent pas ni de la solidarité, ni des respects de droits qui sont des droits mutuels. Aujourd'hui, on a ce qu'on vit, c'est par exemple pas mal de fantasmes autour de ce qui est en train de se passer sur la question des réfugiés qui nous fait oublier. Ils vont tous venir chez nous, ou le premier réflexe, c'est qu'ils viennent chez nous. Ce qui nous fait oublier que l'essentiel des migrations sont intracontinentales. On migre d'abord dans le village à côté, puis on va migrer dans le pays d'à côté. Mais on ne va pas en Europe, on ne va pas en France, parce que là, on peut avoir des allocs facilement. Quand on quitte son pays, c'est toujours une expérience extrêmement douloureuse. Et on ne la fait jamais comme ça dans un rapport qui est un rapport... qui serait complètement objectivé entre les avantages économiques que je pourrais avoir par rapport à ce que je vis. Voilà. Donc, par exemple, c'est quelque chose qui est l'indicateur de la difficulté qu'on peut vivre aujourd'hui concernant l'application qu'on s'autorise à faire de principes qui sont des principes qui sont les droits de l'homme. L'Europe et la France a une pratique xénophobe et raciste de l'application des réfugiés. Je veux dire de manière un peu forte, voilà. Et donc c'est contradictoire avec des textes qui sont des textes fondamentaux. Voilà, c'est peut-être au-delà de ces considérations-là, au quotidien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on, en tant qu'association, qu'est-ce qu'on est, sur quoi on se mobilise et qu'est-ce qu'on voit évoluer pour le coup dans notre pays pour réduire un petit peu la focale. Voilà. Aujourd'hui, on est très mobilisé sur cette question-là que je viens d'évoquer, qui est celle des migrations, qui a pris des tas de formes ou des tas d'appellations, les sans-papiers, les immigrés ou des choses comme ça, parce que nous pensons que c'est quelque chose aujourd'hui qui est un marqueur politique fort. Le rapport que nous aurons à cette question-là et la manière dont nous serons capables de la prendre en compte sera un marqueur quant à notre propre évolution, à nous, regarder la place que ça a tendance à prendre, et que ça va prendre, par exemple, dans les prochaines élections européennes. Voilà, c'est cette question-là, elle est, la manière de la traiter va être extrêmement importante sur quant à la façon dont nous allons être capables, y compris, de fonctionner entre nous. Et le rapport qu'on pourra avoir à nos principes qui sont des principes. Et ça, c'est Hein, ça, c'est par exemple quelque chose qui nous a beaucoup préoccupé, la question du rapport à l'étranger et de la façon dont on l'accueille, etc. C'est fondateur à la Ligue des droits de l'homme. Dreyfus, après tout, était un étranger. Hein. Il était alsacien et juif. Donc, c'était en 1898, c'était quand même quelque chose. Il ne mettait pas trop de lui pour se faire accepter, Capitaine Dreyfus. Voilà. Et aujourd'hui, depuis maintenant des années, ça, c'est un combat qui est un combat de la Ligue des droits de l'homme. C'est comment on refuse des pratiques qui sont des pratiques de l'Europe et de notre pays, à notre nom, et qui maltraitent des gens qui sont des gens qui sont nos égaux à nous. Voilà. Et c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours parce que c'est un combat contre y compris la situation que vivent les gens, dans des raccourcis qui sont des raccourcis très forts, qui sont d'ailleurs manipulés dans les campagnes politiques autour de réfugiés, étrangers, musulmans terroristes, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont des choses aujourd'hui qui fonctionnent et qui vont être manipulés par des entrepreneurs de haine, par des gens qui font de la politique avec ça. La deuxième chose, peut-être, qui nous... Alors, comment ça passe par quoi? Ça passe par le fait d'accueillir, ça passe par le fait d'aider à garantir les droits des gens, les soutenir, interpeller, etc. Voilà, c'est... Peut-être qu'on pourra l'évoquer dans la discussion sur les formes que ça peut prendre après. Mais vous devez connaître certainement ici, il y a des tas de gens aujourd'hui qui se mobilisent sur ces questions-là. Deuxième chose, c'est la tendance, depuis maintenant quelques années, quels que soient les gouvernements d'ailleurs, droite ou gauche, on va le dire comme ça, des atteintes à un principe que j'évoquais tout à l'heure, qui est le principe de la sûreté. C'est-à-dire les libertés nous sont grignotées jour après jour. Voilà. Parce qu'il y a du terrorisme, parce qu'il y a du risque, parce qu'il y a du danger. Chaque jour, un peu plus, on voit des libertés qui nous sont grignotées. Alors, la procédure est assez classique. Elles nous sont grignotées en période de crise. Et ça donne lieu à des textes qui sont des textes de circonstances. Que petit à petit, on va intégrer dans le droit commun l'état d'urgence. Alors, vous avez du terrorisme, on vous sort derrière une situation qui est une situation exceptionnelle, et derrière, ensuite, on va vous... Alors, ça donne quoi? Ça donne le fait qu'aujourd'hui, les... Alors, tout à l'heure, il y avait quelque chose sur les... Lui, on voit que... prime l'exécutif sur le législatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est concernant la liberté qu'il y a la liberté de manifester. Un préfet va pouvoir prendre un certain nombre de décisions qui sont attentatoires à la liberté, qui sont des libertés fondamentales, sans le contrôle qui est le contrôle du juge. Voilà. Alors que dans notre droit, c'est d'abord le juge qui va estimer, au regard des principes de liberté, et éventuellement, l'exécutif va être en application de ces choses-là. Voilà. Là, on est en train, petit à petit, depuis plusieurs années, à se faire anesthésier de ce point de vue-là, au regard de choses qui sont des choses, entre guillemets, qui nous font peur aussi, qui sont la violence, etc. Voilà. On est très inquiet par rapport à ce genre de choses-là. C'est des choses pour nous qui nous... qui nous préoccupe tous les jours. C'est-à-dire qu'on va, accompagner des gens qui sont confrontés à ces questions-là, on va interpeller les politiques, on va interpeller les citoyennes et les citoyens aussi, de façon à ce qu'on résiste à cette tendance, qui est une tendance, à aller vers une société qui est une société dans laquelle nous serions à l'abri d'un État qui nous, et de gouvernement qui nous protégerait tellement des risques que nous serions incapables de prendre, qui ferait que, je vous écoute, je vous surveille, je pourrais développer davantage. Les rues sont moins sûres, je vais mettre des caméras de vidéosurveillance. Voilà. Et le discours, et nous de dire militants des droits de l'homme, attention, la liberté d'aller et venir sans forcément être sous le contrôle d'eux, etc. etc. Et avec des gens, on le sait quand on a des débats avec nos concitoyens, on a des gens qui nous disent, mais moi je m'en fous que les caméras nous surveillent, de toute façon j'irai me reprocher. Il n'y a que les gens qui auraient des choses à se reprocher, qui gueuleraient contre le fait qu'effectivement ils soient sous surveillance vidéo ou des choses comme ça. Autrement dit, le principe qui est le principe qui est de dire les gens sont a priori présumés comme étant innocents, jusqu'à preuve du contraire, est en train d'être inversé, c'est-à-dire qu'après tout, des gens sont potentiellement dangereux, donc on peut surveiller n'importe qui. Puisque là-dedans, il y a quelqu'un qui peut être un délinquant. Voilà. C'est la même chose, c'est la même chose aujourd'hui par rapport à un certain nombre d'évolutions qui font qu'on a des lois qui sont des lois. Jusqu'à présent, on avait des lois qui faisaient qu'on était jugé en fonction des actes composés. Voilà. Aujourd'hui, si vous lisez un certain nombre de lois, les dernières qui sont en train d'être négociées les lois anti-casseurs, les lois contre la règle. Vous avez là-dedans toute la rhétorique qui est la rhétorique des lois qui sont des lois par anticipation, ou des lois qui sont des lois sur. On juge les gens sur leur manière de penser, et là-dedans vous avez le fait par exemple de contrôler des gens, voire éventuellement de pouvoir les empêcher de circuler, voire éventuellement de les arrêter et de les retenir. Au principe que ces personnes ont un comportement qui laisserait à penser qu'ils pourraient poser un certain nombre d'actes de telle catégorie ou qui ont fréquenté, je vous lis dans le texte, le dernier projet de loi qui est le projet de loi anti-casseur, ou des gens qui fréquentent des personnes dont le comportement laisserait à penser. On va depuis, cette personne pourrait être dangereuse jusqu'à... Cette personne pourrait être dangereuse parce qu'elle connaît des gens qui pourraient être même dangereux. Voilà, on est dans des cercles comme ça, on est dans des logiques, ce sont des logiques qui font qu'on est dans de l'inversion de normes. On va être jugé, on va être astreint à des limites de ses propres libertés au regard de ce qu'on est susceptible de penser. Alors, on connaît bien aussi ces choses-là. Ça démarre, et donc on va ficher, et donc on va contrôler. On a démarré avec les... c'est le principe qui est le principe attaché de l'huile aujourd'hui, et sur lequel nous on est extrêmement mobilisés. On a fiché les délinquants sexuels, et on a juré croix de bois, croix de fer, que c'était uniquement les délinquants sexuels qu'on ficherait. Vous avez une quantité industrielle de la population qui est fichée. Voilà. On chloroforme petit à petit ce genre de choses. Ça devient normal. Aujourd'hui, ça devient normal de se trimballer dans un aéroport ou dans une gare avec des gens en uniforme armé. Ça devient normal d'être au niveau 3 ou au niveau 4 de la... Des procédures qui sont des procédures de prévention du terrorisme qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes devant une école... vous avez des barrières qui empêchent les voitures de s'arrêter, etc. etc. On a complètement oublié ce genre de choses-là. Il y a 20 ans de ça, moi, la dernière fois que je suis allé à Orly, j'ai croisé 3 ou 4 fois des gens qui étaient des gens en uniforme avec des armes, prêts à tirer. Voilà, je pense qu'il y a 20 ans de ça, ça nous aurait... Ça nous aurait marqué. On est pris comme ça dans des logiques qui sont des logiques de... Voilà. Alors, ce qui... Pourquoi ces affaires-là, pourquoi? C'est peut-être aussi parce que... Je vais terminer là-dessus. Je vois que c'est 21h, voilà. On avait dit que c'était... C'est peut-être que parce qu'on a... On a, d'une certaine manière, imaginé... que les droits, quand on les avait conquis, parce que les droits ont été conquis, les droits de l'homme, ils ont été conquis, ils n'ont jamais été filés comme ça, sympa, cash, par quelqu'un qui nous trouvait sain, qui nous trouvait bien. Une fois qu'ils étaient conquis, ils étaient acquis. Et une fois qu'ils étaient acquis, on ne reviendrait pas dessus. Voilà. Or, l'histoire montre que les droits, si on ne se mobilise pas pour continuer à les avoir, on les perd. on les perd. Hein, et on peut en faire la démonstration, effectivement, tous les jours. Alors, contre les femmes sur le droit à l'avortement, on a un certain nombre de droits comme ça qui font que c'est tellement naturel, cette affaire-là, qu'on se les fait attraper, comme ça, et que parce que ça nous est devenu, y compris extérieur, notre capacité à se mobiliser pour ce genre de choses. Et nous, on pense que, par rapport à ces dynamiques-là, il y a deux choses majeures, enfin, il y a trois choses majeures qui sont importantes. C'est interpeller, fonction tribunicienne de notre association, c'est-à-dire en permanence donner de la visibilité à un certain nombre de phénomènes qui sont importants, insupportables, et interpeller les gens qui sont en responsabilité par rapport à ces phénomènes-là. La deuxième chose, c'est de s'engager, c'est-à-dire que les droits ne sont acquis et ne resteront acquis que dans la mesure où les citoyennes et les citoyens se mobiliseront effectivement pour qu'ils continuent à l'être comme ça. La Ligue des droits de l'homme, c'est 10 000 personnes qui sont des bénévoles et c'est 10 salariés. On a fait le choix d'être dans une association qui est une association dans laquelle ce sont les bénévoles qui sont la force vive de notre organisation. Tout simplement parce que la question des droits n'est pas une affaire de professionnels, elle est une affaire de citoyennes et de citoyens qui s'engagent. Et le troisième point, c'est transmettre. Je voulais l'évoquer aussi. Transmettre, c'est-à-dire faire que ces choses-là, qui sont le produit de notre histoire, puissent être transmises aux générations suivantes qui puissent se les approprier. Aujourd'hui, ces choses-là soient faites de façon massive dans le cadre des établissements scolaires. Et puis c'est très bien qu'un des citoyens et citoyens aillent dans les établissements scolaires. On n'est vraiment pas du tout sûr que ce soit des choses qui vont l'être de plus en plus au regard de la manière dont l'école va être faite. On n'est pas du tout sûr que la Marseillaise et le drapeau tricolore soient quelque chose qui transmette les droits de l'homme. Le nationalisme peut-être, mais les droits, ça c'est pas sûr du tout. Surtout s'il y a derrière un service national qui fera qu'on sera avec le lever des couleurs ou des choses comme ça. Voilà, on essaye d'être très présent aussi auprès des jeunes générations en développant des actions de débat de manière à ce que c'est le monde dans lequel vivent aujourd'hui les jeunes, qui peut leur paraître comme étant naturellement organisé, ils puissent réfléchir de façon à pouvoir mesurer que s'ils ne s'y engagent pas eux-mêmes, ils risquent de leur filer entre les mains. J'ai terminé. Merci.
Je prends un micro, j'espère pas parler pas trop fort. Merci de ta passion. Moi, j'en retire un sentiment un peu pessimiste, honnêtement. Et donc, on passe aux questions, très simplement, mais je vous dis, mon premier sentiment personnel est celui-là. J'espère que vous allez l'effacer tous.
Merci. Comme tu le sais, depuis qu'on ne se voit plus, j'ai vécu surtout dans des pays pas importants, comme tu les qualifies.
Oui, pour nous.
Et qui s'interrogent énormément sur la question de l'universalité des droits de l'homme. On leur a tellement raconté des universalités, et pas qu'à une époque, mais encore, parce que la colonisation ne s'est pas tout à fait arrêtée quand nous, on le raconte dans nos livres d'histoire. Et donc, il y a des choses dans tes propos. C'est bien. Donc, mais la question de la migration, par exemple, des migrants, ce que tu dis sur les migrants. Moi, j'ai vu une émission cet après-midi ou je sais plus à la télévision où on parlait des gens qui partaient travailler en Afrique. C'était pas des migrants, c'était des Français qui étaient. Voilà. Les migrants, c'est toujours dans un sens. D'accord. Et à un moment donné, comment la Ligue s'est battue sur la question de la circulation? Comment à un moment donné, moi, en 1989, j'arrive en Algérie, je n'ai rien compris pas. Ils disent, mais pourquoi on nous met des visas? On allait à Marseille acheter nos pièces à l'étagère et on rentrait, on faisait vivre la ville de Marseille. Pourquoi tout d'un coup, on ne peut plus y aller? Et effectivement, on a interdit à la fois aux Africains de venir, je veux dire, moi, le père de ma fille, c'est un peu compliqué, mais le père de ma fille dit... il est au Sénégal, il dit maintenant je suis à la retraite, il n'y a pas de raison qu'on ne me donne pas un visa. Ben, je lui dis si, il y en a plein de raisons.
Ah, oui.
Ils vont penser que tu viens te faire soigner. Et il me regarde, il ne comprend pas. Il dit mais je croyais que maintenant j'allais pouvoir aller voir, puisque je n'allais pas chercher du travail, je croyais que. Mais non, on a trouvé une autre excuse pour que tu puisses pas circuler. Et nous, quand on circule dans l'autre sens, on trouve même aberrant qu'on nous demande des visas. Donc, l'arrogance française, connue quand même un peu partout, et particulièrement sur le continent africain, fait qu'on a des doutes sur qu'est-ce qu'ils nous vendent avec les droits de l'homme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des associations de droits de l'homme. Quand je suis arrivé à Conakry, il y en avait trois. Il y avait trois ligues des droits de l'homme qui se disputaient le fait d'être représentatives et d'être dans la confédération. Mais... dans les faits, comment on a laissé petit à petit, on a fabriqué cette question des migrants, parce que les migrants, ça existe, et en particulier, ça n'existe d'autant plus qu'on ne les laisse pas repartir.
Oui, bien sûr.
Avec ce système des visas, tous les sociologues le savent, si on laissait repartir...
Si on faisait l'immigration pendulaire, les gens poseraient...
Voilà. Et donc, de fait, dans ce que tu dis là, moi, je ne sais pas comment, et j'ai beaucoup de mal avec mes amis africains à leur dire que ce n'est pas un nouvel outil au service d'une domination occidentale sur leur vie quotidienne.
Les droits de l'homme, c'est ça.
Les droits de l'homme, au même titre que l'ont été... Enfin, je veux dire, la francophonie, enfin voilà.
Oui, bien sûr. Victor Hugo, tout ça.
Oui,
ouais.
La fabrique Senghor.
Je pense que sur la question de l'universalisme, de l'universalisme, il y a deux façons de penser ces choses-là. Soit il y a la dimension qui est la dimension qui fait partie de notre histoire, qui est en gros l'universalisme abstrait, celui dans lequel effectivement on est sur les principes. On est sur les principes et on va tenir des discours. C'est ce qui a fait, c'est ce qui a accompagné la colonisation, alors que ce soit la colonisation telle qu'elle a pu exister de manière revendiquée en tant que telle, ou la colonisation de fait qui a succédé à cette affaire-là. Et dans lequel, en gros, voilà, ce sont des valeurs qui sont des valeurs qui sont unifiantes et qui font que, effectivement, on est dans des rapports universels avec les personnes, mais. On est dans quelque chose de l'ordre de l'abstraction. Voilà. C'est valable pour les pays qui sont les pays étrangers, c'est valable pour nous, dans notre pays à nous. Moi, je connais plein de gens qui sont des militants des droits de l'homme, qui sont pour l'égalité, qui sont pour les principes d'égalité, qui sont pour les principes de solidarité ou de prise en compte, et qu'on ne voit jamais aux endroits qui sont les endroits dans lesquels c'est le plus compliqué de la façon dont ça se passe. Moi, par exemple, régulièrement, je vais dans des quartiers d'habitat social. Il y a des associations de défense des droits de l'homme, je ne les y vois jamais. Parce que je pense que la seule manière qui permet de répondre à la question que tu poses, qui est celle, je l'ai dit d'emblée, que nous on a toujours derrière l'oreille cette affaire-là, qui est de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de, au nom de notre bonne conscience, de vendre un certain nombre de choses qui sont des choses. C'est la question qui est la question de l'efficacité. C'est-à-dire les droits de l'homme, ce n'est pas que de l'abstrait, c'est du concret. C'est du concret. C'est-à-dire concrètement, par quoi ça passe. C'est-à-dire en permanence, en tant que... C'est d'être pris dans le... Et c'est là, de mon point de vue, je pense, qu'il y a la nécessité d'avoir une approche qui est une approche de prendre en compte de manière intégrale l'ensemble qui est l'ensemble des droits. Oui, l'égalité, oui, la possibilité de parler, mais oui aussi le fait d'avoir le droit au travail, mais oui aussi le fait d'avoir le droit au logement, c'est-à-dire les droits économiques, sociaux et culturels. Et c'est de poser en permanence cette question-là hein, qui va faire qu'à des moments donnés, effectivement, me semble-t-il, on ne va pas vendre qu'une idéologie, mais quelque chose qui est quelque chose de concret. Et de réel, c'est-à-dire la capacité. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la capacité que les personnes nous interpellent, y compris par rapport à ce qu'on met en avant. Ça renvoie à la manière dont on va travailler effectivement avec les personnes. Si on est dans une logique qui est une logique surplombante, qui est celle de je vais effectivement t'élever à mon niveau, qui est le bon, bien entendu, puisque moi je suis bien sûr. Ça demande des postures qui sont des postures qui ne sont pas surplombantes. Mais je pense que la question de l'effectivité des droits, hein, c'est quelque chose. Et le fait de ne pas. On ne va pas s'emmerder avec la liberté de penser. Si déjà Ben Ali leur file à bouffer, c'est pas mal. Voilà. Sinon, c'est encore une fois la liberté de penser, la liberté de bouffer, parce que la question, elle est là. Ce qu'on vend, effectivement, c'est des principes contre, je ne sais pas, du cobalt, du chrome ou de l'inégalité sociale ou des choses comme ça. C'est prendre cet ensemble-là de droits. Nous, on est par exemple, on travaille avec un certain nombre d'associations de défense des droits qui ne connaissent pas les droits économiques et sociaux et qui ne sont que sur les droits civils et politiques. À un moment donné ou à un autre, je pense que ces gens-là se mettent dans des postures qui peuvent les amener à être dans ce que tu racontes. Voilà. Mais voilà ce que je peux en dire. Ça veut dire qu'il faut être en capacité, encore une fois, pas d'avoir des postures qui sont des postures néocoloniales. Je reprends l'exemple de nos propres zones de terre-monde qu'on a dans notre pays, dans lequel, moi, des fois, je trouve qu'il y a des jeunes qui viennent faire la leçon sur les droits de l'homme, et notamment avec les jeunes des quartiers et avec les filles des quartiers, qui me paraissent effectivement être extrêmement néocoloniales, pour le coup. Et où on vend un certain nombre de choses. Alors, ça c'est aussi une question qui est une question, nous, par exemple, qui nous traverse aujourd'hui. Nous, en tant qu'association, on a complètement été à des moments donnés dans ce que tu évoques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans notre histoire, nous étions pétris de bonne conscience sur les droits de l'homme qu'on transmettait à ces gens qui étaient des gens. Voilà, c'est. On se pose en permanence, par exemple, la question effectivement du rapport qu'on va avoir avec les gens, et notamment de la capacité de pouvoir qu'ils peuvent prendre dans des logiques qui sont des logiques de défense de leurs droits propres. Pendant longtemps, à la Ligue des droits de l'homme, on a pris la défense des gens, autrement dit, on a pris leur défense. La question aujourd'hui, c'est comment on peut se mettre dans des logiques dans lesquelles, effectivement, on ne fait pas que prendre leur défense, mais qu'à parité, on est en train de construire des systèmes de défense partagée. Voilà. Et ce n'est pas évident, cette affaire-là. Mais je pense que ça, c'est un des enjeux. Voilà.
Une autre question ? Quelle est la position de l'ALDH par rapport au retour des combattants de Daesh ?
La position, c'est que les gens qui sont combattants de Daesh doivent pouvoir être jugés en France quand on n'a pas la garantie que leurs droits fondamentaux sont protégés dans les pays où ils risquent d'être jugés. Donc, il faut les rapatrier. Avec tout le risque. Avec tout le risque que ça peut engendrer, mais... Et je veux bien voir sur pièce sur la question qui est la question des risques. Et là, je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas confronté à quelque chose de l'ordre du... Oui, y compris avec ces choses-là. Mais on ne peut pas se défausser, on ne peut pas, c'est un principe de ce point de vue-là, on ne peut pas laisser faire le sale boulot à d'autres États, alors qu'on serait sur des principes qui sont des... Voilà. C'est avec, effectivement, le risque. Mais... Ce risque-là est un risque que nous avons tous les jours. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui peut-être une question aussi qu'il faut qu'on se dise. La défense des droits, le fait d'être dans un pays qui est un pays de droit, fait que les gens qui le doivent aussi vivre avec le risque qui est celui d'avoir des droits et de vivre avec des personnes qui les accompagnent. Voilà. Et contrairement à ce qu'on peut vous raconter, nous sommes relativement bien équipés de ce point de vue-là. Nous avons un dispositif réglementaire, j'ai évoqué tout à l'heure, extrêmement performant de ce point de vue. Je suis même sûr qu'on pourra contrôler de manière beaucoup plus efficace quelqu'un qui rentre effectivement des guerres qui sont des guerres fondées sur le djihad que le contrôlait M. Benalla aujourd'hui dans un tribunal. Voilà. Pour tout simplement parce que là, on est dans des creux qui sont des creux de dispositifs. Oui, bien sûr. Bien sûr que ça, c'est dangereux et que ces gens-là représentent effectivement des dangers. Mais si on est contre la peine de mort, et si on ne veut pas que les gens, effectivement, soient exécutés sur le principe qui est le principe, avec les garanties qui sont les garanties de défense, eh bien non. Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est pour ça qu'il faut... Oui, oui. Allez-y. Fait, oui. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, je voulais vous commenter le fait que la notion de risque, je pense qu'à l'inverse, le risque existe.
Oui. Alors, il y a un truc, moi je pense que nous on est intimement persuadés. Nous ne sommes pas faibles. Le fait que nous soyons des démocraties ne nous rend pas faibles. Nous sommes extrêmement forts. Et les démocraties qui s'assument en tant que telles, je pense aux pays scandinaves, sont d'autant plus fortes qu'effectivement elles revendiquent le fait qu'elles sont des démocraties et qu'elles sont fortes. On est en train de passer notre temps à nous expliquer que nous sommes des gens extrêmement faibles qu'il faut protéger. Nous sommes parfaitement capables de nous protéger, de nous organiser, y compris pour nous protéger. Nous avons des lois pour ça et nous avons des personnes pour ça. Vraiment, allons-y. Mais bien sûr. Mais tout le monde peut faire la leçon à tout le monde de ce point de vue-là. Soyons clairs, nous qui faisons souvent des leçons à tout le monde, effectivement, il y a des gens qui... bien sûr, mais personne de ce point de vue-là est complètement parfait. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est que de ce point de du point de vue de la... Quand il y a eu des attentats dans les pays scandinaves, il y a des gens qui ont dit « Non, non, on ne va pas limiter la démocratie dans laquelle on vit. » Parce que c'est celle-là qui nous protège aussi. C'est ça que je veux dire. Et je pense que ça, ce n'est pas du tout le discours qui a été tenu par nos responsables politiques. Moi, je peux vous dire, pour l'avoir vécu en tant que secrétaire général, que nous avons eu des responsables politiques qui étaient d'une médiocrité absolue, et je suis sympa, concernant ce qui était en train de se passer par rapport aux attentats, et que le produit réglementaire, législatif que nous avons et la manière dont ça a été traité est le produit de la propre médiocrité des gens qui étaient au pouvoir, tellement ils avaient la trouille. Ce qui pose un problème d'ailleurs, c'est qu'ils ne mesuraient pas très, tout à fait bien ce qui était en train de se passer dans leur propre pays, parce que ce qui s'est passé dans notre pays n'est pas un éclair qui est un éclair comme ça, soudain, dans un ciel qui est un ciel bleu d'azur. Je veux dire, les histoires, ce à quoi nous avons été confrontés, sont des choses qui sont le produit aussi de notre propre histoire, sur lequel on les a sortis de devant pendant longtemps. Je vais le dire autrement, de manière provocatrice, les terroristes sont aussi nos enfants. Voilà. Mais ça, je le pense. J'ai travaillé longtemps, effectivement, dans des endroits dans lesquels je me disais, putain, si ça dérape là, voilà. Et dans une surdité qui est une surdité absolue. Voilà.
Bon, tu parlais des enfants. Y a-t-il une autre question? Oui.
À propos de nos enfants, ce n'est pas tellement une question, mais plutôt une remarque ou une réflexion. Vous avez parlé tout à l'heure de la transmission, du problème de la transmission aux jeunes. Mmh. Moi, je pense que c'est excessivement important parce qu'aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que vous avez aussi évoqué tout à l'heure les droits sociaux, les acquis. Alors moi, j'ai tendance à dire un petit peu ce que nos grands-parents, par des différentes lois, ont acquis, effectivement, les congés payés, la sécurité sociale, etc.
Ce qu'ils ont conquis,
ouais. Voilà, ce qu'ils ont conquis de haute lutte. Et aujourd'hui, nos enfants, je pense qu'ils ne sont pas très bien conscients de ça, parce qu'aujourd'hui, la politique telle qu'elle est menée actuellement leur laisse penser que finalement, bah, tout ça, ce n'est pas des droits. Donc ça me paraît un vrai problème.
Quand on voit
qu'au niveau de l'éducation, on leur enlève aujourd'hui des tas de cours d'histoire et que l'histoire permet aussi de bien comprendre ce qui s'est passé, en leur ajoutant à côté un peu de morale, je trouve qu'effectivement c'est très préoccupant. Mais par contre, il y a une chose que j'ai remarquée, parce que j'ai un fils qui a un peu plus de 20 ans maintenant et qui est très cinéphile avec moi, et on aime bien aller voir des films d'anticipation. Et c'est une remarque que j'ai à faire. Peut-être par l'intermédiaire de cette culture-là, peuvent-ils apprendre à quel point leurs droits sont menacés, et les droits de tous les peuples en général sont menacés. Je pense à certains films du style, alors peut-être que, je ne sais pas si parmi vous ont vu ça, Divergente, Le Labyrinthe, Avatar même, qui est sans doute beaucoup plus connu, fait référence à ces notions-là, ou à ces gens dont, à qui on demande justement d'être, qu'on lobotomise en quelque sorte, et à qui on demande d'être dans une droite ligne, à qui on n'autorise plus aucun droit, des gens qui sont surveillés en permanence. Et je pense que si les jeunes réfléchissent un peu et qu'ils voient ça autrement que par le divertissement, ils ont beaucoup à apprendre de ça. Peut-être qu'il faut aussi travailler avec le monde de la culture dans ce domaine-là pour leur apporter à travers ce genre de... à travers les films, à travers la musique, peut-être aussi ces notions-là.
Toujours dans la même question... en ce qui me concerne, je connais ton niveau d'intervention dans les collèges, les écoles primaires et au-delà, auprès des jeunes dans le cadre des cours. Et quel est ton ressenti par rapport à cette histoire que tu nous as racontée, ce risque que tu nous présentes, cette analyse? Comment réagissent-ils?
Moi, alors, il faudra me parler avec toute l'équipe. Là, ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus. Il y a deux choses. Je peux en dire deux choses. Les gens que je trouve les plus inquiets, ce ne sont pas les jeunes. Ce sont les enseignants qui sont inquiets et coincés aujourd'hui par rapport à des questions qu'on aborde avec les enfants. Alors, de quoi on parle quand on parle avec un... Bien sûr qu'on... Enfin, pas bien sûr, mais on a choisi de ne pas parler de terrorisme, on n'a pas choisi de parler de radicalisation, puisque aujourd'hui, des quantités industrielles de professionnels en France, la protection judiciaire, la jeunesse et les éducateurs, les enseignants, tout ça travaille sur les risques de montée de radicalisation avec de bons dispositifs comportementalistes à la clé. En plus, je veux dire, de l'efficacité, voilà. On ne prend pas bien tête ces questions-là, mais on aborde un certain nombre de questions dont on pense d'ailleurs que ça devrait être le quotidien des enseignants. On travaille toujours avec les enseignants quand on travaille avec les jeunes, en amont et en aval. On briefe et on débriefe avant. Mais par exemple, quelle différence il y a entre croire et savoir? C'est cours de philo, devoir de philo. Et bien aujourd'hui, quand vous parlez de ces questions-là, vous partez de cette question-là avec des élèves de 4e, à la fois, vous n'êtes pas dans la philo qui est la philo, peut-être de haut niveau, mais vous voyez traverser, au bout de demi-heure de débat, quand c'est bien construit, des questions qui sont des questions extrêmement fortes sur le religieux, sur le... sur la question du rapport avec la science, etc., avec des jeunes qui sont des jeunes dont c'est relativement important d'avoir des débats là-dessus. Mais ce que nous, on a remarqué, c'est la, que je dis là, c'est la peur ou la difficulté que peuvent avoir aujourd'hui, effectivement, les enseignants à aborder ces questions-là, tant ils se disent ces choses-là sont d'une part tellement sensibles que c'est trop compliqué d'engager le débat là-dessus. D'autant qu'on n'est pas du tout sûr que l'institution derrière offre les garanties de sécurité pour pouvoir le mener. Voilà. Et là, s'il y a des niveaux qui sont des niveaux de difficulté, c'est là que ça se passe. Et des fois, on travaille plus avec les enseignants qu'avec les gens, parce que, y compris les enseignants, en remontant sur ce que j'évoquais tout à l'heure, sur des questions qui sont des questions de droit et tout, que eux-mêmes ont pu oublier, mais voilà. C'est de ce côté-là que c'est compliqué. Après, nous, l'expérience qu'on peut voir avec les jeunes, c'est que ça c'est pas très compliqué. Par contre, ce dont on sait, c'est que c'est très compliqué d'être jeune aujourd'hui. D'être jeune aujourd'hui, parce que c'est traversé de contradictions, c'est traversé de tas de questions qui sont des questions sur lesquelles on a des éléments qui sont des éléments de réponse en termes de... Déjà, nous, de droit, mais je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, nous avons aussi... toute une série de questions aujourd'hui concernant les droits qui sont des questions devant nous, c'est-à-dire que les droits de l'homme, c'est pas un truc qui s'arrête du jour au lendemain. Mais les droits qui sont les questions de l'informatique, du traitement de données, etc. Voilà, ça c'est un truc. Pour le moment, on n'a rien là-dessus. Je ne dis pas par hasard, parce que c'est des questions qu'on a aussi avec les jeunes, de ce point de vue. C'est-à-dire comment... Et pour le moment, par exemple, on n'a pas d'appareillage. On n'a pas de travail qui soit fait concret autour de ces questions-là. De la même manière qu'on a aujourd'hui, en termes de droits de l'homme, ça ne concerne pas les jeunes, des questions extrêmement importantes qui sont liées à la question qui est la question du vivant et de la politique. Hein, la GPA, la transmission du patrimoine, etc. etc. Voilà, ça, c'est des questions sur, sur lesquelles, aujourd'hui, il y a des nouvelles générations de droits de l'homme sur lesquelles il va falloir qu'on travaille. Et des fois, avec les jeunes, on traverse ces questions-là. Et quand on parle, par exemple, de la question des réseaux sociaux, des données ou des trucs comme ça, voilà, et où on est là dans un... Comment dire ? On est dans un espace qui est un espace, pour le moment, qui est quasiment affranchi de toute règle de droit, parce qu'on n'y a pas encore réfléchi de ce point de vue-là. Mais c'est intéressant de parler avec eux, parce qu'ils pratiquent et ils réfléchissent aussi. Voilà.
Une autre question, peut-être ? Bon, on va arrêter là, on va poursuivre autour de quelques petits mets, notre habituelle auberge espagnole où on continue la conférence. Je te dirais aussi comme information que tu as été le créateur du réseau Éducation sans frontières à Toulouse.
Oui.
C'est une expérience ancienne, mais certainement extrêmement riche, aussi aux yeux de la plupart des gens ici. Et... Je me permets de vous annoncer aussi la prochaine conférence du mois de mars, dont j'ai évidemment oublié le thème. Alors que c'est un thème extrêmement d'actualité avec le printemps, avec la relation et le langage qu'ont les arbres entre eux, ce que plusieurs scientifiques ont démontré ces derniers mois. Donc, la conférence sur les arbres.
Juste deux mots, j'ai amené un peu de matériel didactique.
Là, ah oui. Ça.